Les débuts de ce roi qu'on appelle le mauvais.
Avez-vous noté, mon neveu, que partout où nous nous arrêtons, à Limoges, aussi bien qu'à Nontron ou ailleurs, chacun nous demande nouvelles du roi de Navarre, comme si le sort du royaume dépendait de ce prince. Une étrange situation, en vérité, que celle où nous sommes. Le roi de Navarre est prisonnier dans un château d'Artois de son cousin le roi de France. Le roi de France est prisonnier dans un hôtel de Bordeaux de son cousin le prince héritier d'Angleterre. Le dauphin, héritier de France, se débat dans le palais de Paris entre ses bourgeois agités et ses états généraux remontrants. Or, c'est du roi de Navarre que tout le monde paraît s'inquiéter. Vous avez entendu l'évêque lui-même. On disait le dauphin fort ami de monseigneur de Navarre. Ne va-t-il pas le libérer? Dieu saint, j'espère bien que non. Il a été fort avisé, ce jeune homme, de n'en rien faire jusqu'à présent. Et je m'inquiète de cette tentative d'évasion que des chevaliers du clan navarrais auraient montée pour délivrer leur chef. Elle a échoué. Il faut nous en féliciter, mais tout porte à croire qu'ils voudront recommencer. Oui, j'ai appris bien des choses pendant notre arrêt à Limoges. Et je me dispose dès notre arrivée ce soir à la Péruse d'en écrire au pape. Si c'était une grosse sottise de la part du roi Jean d'enfermer monsieur de Navarre, c'en serait une égale aujourd'hui pour le dauphin de le relâcher. Je ne connais pas de plus grand brouilleur que ce Charles, qu'on appelle le mauvais. Et ils se sont bien donné la main à travers leur querelle, le roi Jean et lui, pour jeter la France dans son malheur présent. Vous savez d'où lui vient son surnom? Des tout premiers mois de son règne, il n'a point perdu de temps pour le gagner. Sa mère, la fille de Louis Hutin, mourut, comme je vous le contais l'autre jour, durant l'automne de 49. Dans l'été de 1350, il alla se faire couronner en sa capitale de Pampelune, où jamais depuis sa naissance à Évreux, 18 ans plus tôt, il n'avait mis les pieds. Voulant se faire connaître, il parcourut ses états, ce qui ne demandait point de longues courses. Puis il alla visiter ses voisins et parents. Son beau-frère, le comte de Foix et de Béarn, celui qui se fait appeler Phébus, et son autre beau-frère, le roi d'Aragon, Pierre le cérémonieux, et également le roi de Castille. Or, un jour qu'il était de retour à Pampelune et qu'il y passait un pont à cheval, il rencontra une délégation de nobles navarrais qui venaient à lui pour lui porter leur doléance, parce qu'il avait laissé violer leurs droits et privilèges. Comme il refusait de les entendre, les autres s'échauffèrent un peu. Il fit alors saisir par ses soldats ceux qui criaient au plus près de lui et ordonna qu'on les pendît dans l'instant aux arbres voisins, disant qu'il faut être prompt à punir si l'on veut être respecté. J'ai remarqué que les princes trop hâtifs au châtiment capital obéissent souvent à des mouvements de peur. Ce Charles n'y fait pas exception, car je le crois plus courageux de parole que de corps. C'est cette brutale pendaison, dont la Navarre fut endeuillée, qui lui valut d'être bientôt appelé par ses sujets El Malo, le mauvais. Il ne tarda pas d'ailleurs à s'éloigner de son royaume, dont il laissa le gouvernement à son plus jeune frère, Louis, qui n'avait alors que 15 ans, lui-même préférant revenir s'agiter à la cour de France, en compagnie de son autre frère, Philippe. Alors, me direz-vous, comment le parti navarrais peut-il être tellement nombreux et puissant si, en Navarre même, une part de la noblesse est opposée à son roi? Et mon neveu sait que ce parti est surtout composé des chevaliers normands du comté d'Évreux. Et ce qui rend Charles de Navarre si dangereux pour la couronne de France, plus encore que ses possessions au midi du royaume, ce sont celles qu'il tient ou qu'il tenait dans la proximité de Paris, telles les seigneuries de Mantes, Passy, Melun ou Nonancourt, qui commande les accès à la capitale pour tout le quart ouest du pays. Cela, le roi Jean le comprit assez bien, ou on le lui fit comprendre, et il donna pour une rare fois preuve de bon sens en s'efforçant à l'entente et à l'arrangement avec son cousin de Navarre. Par quel lien pouvait-il se l'attacher le mieux? Par un mariage. Et quel mariage pouvait-on lui offrir qui le liât à la couronne aussi étroitement que l'union qui avait pendant 6 mois fait de sa sœur Blanche la reine de France? Eh bien, le mariage avec l'aînée des filles du roi lui-même, la petite Jeanne de Valois. Elle n'avait que 8 ans, mais c'était un parti qui valait bien attendre pour consommer. D'ailleurs, Charles de Navarre ne manquait pas de galante compagnie pour seconder sa patience. Entre autres, on sait une certaine demoiselle Gracieuse, oui, c'est son nom, ou celui qu'elle avoue. La petite Jeanne de Valois, elle, était déjà veuve, puisqu'on l'avait une première fois mariée à l'âge de 3 ans avec un parent de sa mère que Dieu n'avait pas tardé à reprendre.